Le 1 est un bâton qui dit j'ai mal à la tête. Le 2 dans son ondulation siffle quelles sont ses sornettes. Le 3 est une femme enceinte.
Nous allons aujourd'hui parler des maths modernes. Courte période, début des années 70, que j'ai eu la chance de vivre. Que n'a-t-on pas dit et que ne dit-on pas encore aujourd'hui sur ce qui a peut-être été la seule révolution proposée au système éducatif? Bien qu'à ce que je sache, aucun des enfants ayant traversé ce soi-disant cauchemar se soit révélé ensuite un handicapé des maths. Comme d'habitude, on s'est bien gardé de vérifier ensuite si le jugement porté sur une période était conforté par des faits. On s'en tient à de simples ressentis qui arrangent. Il est vrai que, telle elle a été présentée ou comprise, il y avait de quoi troubler tout le monde. Fini l'arithmétique, la géométrie euclidienne, il fallait apprendre la théorie des ensembles. Fini l'apprentissage des nombres, il fallait mettre des enfants, des n'importe quoi, dans des accolades. Fini les paquets de 10 bûchettes, il fallait compter en base 2. Fini les problèmes de train qui se courent après, ou des robinets qui fuient pour remplir la baignoire, il fallait dessiner des diagrammes, faire des partitions, trouver des relations d'équivalence. Il fallait que les adultes se mettent à comprendre un charabia de la même façon que les enfants ont à comprendre notre charabia arithmétique qui pour nous n'en est pas un. Il fallait que les adultes retournent à l'école. Et on vit fleurir des bouquins comme les maths à papa ou les maths à maman, étant entendu que, bien sûr, pour les mamans, il ne fallait pas aller trop loin. Et les éditeurs se mirent à produire en catastrophe des fiches qui avaient l'avantage de pouvoir être données à remplir en même temps par toute une classe, peu importe alors que l'on comprenne pourquoi. On remplissait les patates des fiches puisqu'il fallait faire des patates au lieu de faire des problèmes de robinet. Pourtant, cette réforme était la conséquence d'un travail de plusieurs dizaines d'années d'un groupe de mathématiciens appelé le groupe Bourbaki, visant à transformer le programme mathématique de l'enseignement supérieur d'où doivent surgir des mathématiciens, de vrais mathématiciens. Dès 1956, l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement secondaire se prononce à son tour pour une transformation des programmes et elle crée une commission pour faire des propositions. En 1967, le ministre de l'Éducation nationale crée à son tour une commission pour plancher sur un nouveau programme. Lorsque cette réforme est lancée dans le primaire en 1970, ce n'est donc pas une élucubration post-68arde comme on se plaît à le dire aujourd'hui. Je me demande cependant si les promoteurs de cette réforme ont eux-mêmes saisi son importance quant à la révolution de la conception même de l'apprentissage et non pas quant à la révolution des mathématiques.
Le 1 est un bâton qui dit j'ai mal à la tête. Le 2 dans son ondulation siffle quelles sont ses sornettes.
J'ai eu la chance de suivre, pendant les 2 années qui ont précédé, les journées de formation proposées par les IREM, les Instituts Régionaux pour l'Enseignement des Mathématiques. Là, j'ai encore eu la chance de rencontrer des personnages remarquables. Ils m'ont fait découvrir que les maths n'étaient pas des notions à apprendre, mais un langage à construire. Les patates n'étaient pas de nouvelles règles de 3 à apprendre, mais de simples moyens parmi d'autres pour aider les enfants à se créer d'autres représentations inexistantes dans la réalité. S'il est par exemple impensable dans la réalité de mettre ensemble des chats et des souris, je peux le faire si ce ne sont plus des chats et des souris mais des animaux. Et puis si ce ne sont que des éléments qui ont perdu leurs caractéristiques de chats et de souris. À ce moment, on perçoit autre chose du monde qui nous entoure, mais cette autre chose, il faut que nos neurones le créent. C'est cela la propriété du langage mathématique. Créer des ensembles qui peuvent être inexistants et les qualifier symboliquement pour qu'ils prennent une vie propre. Si le nombre qualifie couramment une quantité ou une grandeur, en particulier dans le langage oral, lorsqu'il est associé à des objets, il n'est pas par lui-même concret. 15 vaches, c'est concret. 15 ne l'est plus, et ce d'autant lorsqu'il est symbolisé par des chiffres. Il faut avoir la capacité de se le représenter sans les vaches. Les patates, ce n'était pas apprendre une autre mathématique, c'était aider les enfants, à partir du concret, à créer et à naviguer dans d'autres représentations échappant au concret. Apprendre à compter en base 2 n'a strictement aucune importance s'il s'agit d'apprendre une nouvelle façon de compter. Ce qui est difficile, c'est agencer des signes qui puissent représenter n'importe quelle quantité et pouvoir se représenter qu'ils changent de sens suivant leur position. Pour cela, c'est pratiquement bien plus facile d'entasser des groupes de 2 ou de 3 que des dizaines, des centaines et des mille. Que 10 bûchettes puissent s'appeler une dizaine de bûchettes et que cela peut s'écrire avec un 1 suivi d'un 0, c'est facile. Mais cela ne fait pas rentrer dans la mécanique numérique, base de notre arithmétique. S'amuser avec les bases quand on n'a que 2 ou 3 signes pour représenter des nombres, jouer avec des bouliers chinois ou avec des bouliers ne comportant pas les 10 boules habituelles, inventer des agencements de signes pour symboliser des quantités, c'est construire des représentations, une capacité de représentation sans laquelle la numération décimale ne pourra pas être manipulée. Je suis effrayé par le nombre d'enfants ayant aujourd'hui de bonnes notes en calcul, alors que manifestement ils n'ont aucune représentation de ce qu'ils manipulent mécaniquement. Ils ont simplement mémorisé des mécanismes. Par exemple, la faculté de calculer mentalement ne tient pas à l'utilisation de mécanismes préalablement appris et répétés, mais à la faculté de manipuler et de combiner de multiples façons des représentations. Si celles-ci n'existent pas, la mémorisation et l'utilisation de quelques mécanismes que l'on peut donner aux enfants s'avèrent inefficaces. Une représentation ne s'apprend pas. Il faut que chacun se la construise et l'organise par rapport à d'autres représentations. Les cognitivistes appellent cela construire des schèmes cérébraux opératoires. Une affaire de neurones. Les maths modernes, au moins à l'école primaire, ce n'était pas une nouvelle mathématique. C'était l'accent mis sur le fait que les maths, avant d'être une langue, étaient un langage pouvant créer des représentations. Qu'il fallait bien le développer pour pouvoir ensuite s'approprier les représentations qui sont utilisées couramment. Ce n'était pas l'élimination de l'arithmétique, c'était l'accession à l'arithmétique, au calcul, à la géométrie, et plus tard à l'algèbre, peut-être, et pourquoi pas, à la théorie des ensembles. Mais peut-être n'avons-nous été que quelques-uns à les comprendre ainsi. En tout cas, cela aurait pu être une vraie révolution qui n'a pas été entamée. Peut-être aussi parce que ses promoteurs, comme ceux qui ont dû l'appliquer, n'en ont eux-mêmes pas saisi le sens qu'elle pouvait prendre. Et l'immense majorité des enfants comme des adultes restent illettrés mathématiquement.